Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. République centrafricaine, l'accord de paix en Centrafrique signé début février entre Bangui et 14 groupes armés est dans la tourmente depuis la formation d'un nouveau gouvernement dimanche. Un groupe armé majeur a annoncé quitter l'équipe gouvernementale et un autre se retirer de l'accord. Le FDPC, le Front démocratique du peuple centrafricain, groupe armé implanté surtout dans le nord-ouest du pays, a annoncé ce lundi se retirer purement et simplement du processus de paix. Dans un communiqué, le FDPC, qui n'a pas obtenu de portefeuille ministériel hier, estime que le gouvernement est loin d'être inclusif, comme le prévoyait l'accord de Khartoum. Le FPRC, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, issu de l'ex-coalition de la CEDECA, avait déjà jeté un froid sur l'accord de paix dimanche en annonçant quitter la nouvelle équipe gouvernementale. Mais ce groupe armé, l'un des principaux du pays, qui contrôle une grande partie du nord de la Centrafrique, n'a toutefois pas précisé s'il se retirait totalement de l'accord de paix ou non. Pour plus de détails sur le gouvernement qui suscite autant de contestations, rejoignons le correspondant de VOA Afrique à Bangui, Freeman Sipila.
La quasi-totalité des membres de l'ancien gouvernement sont non seulement maintenus, mais conservent également leur poste. 15 nouveaux entrants contre 21 anciens pour un total de 8 femmes. Des représentants des partis politiques, des groupes armés, mais aussi de la société civile y sont représentés. Marie-Noëlle Koyara, la première femme ministre de la Défense en Centrafrique, garde son portefeuille. Un nouveau ministère dit de désarmement est créé et c'est le chef de l'aile dure anti-Balaka, Maxime Mokom, qui l'occupe. Il est secondé d'un délégué, le colonel des forces armées centrafricaines, bienvenue Célesson. Les affaires étrangères restent sous les commandes de Sylvie Baipo-Témon, nommée fin 2018 dans l'ancien gouvernement et très peu connue dans le milieu politique. En août cependant, la sortie de Herbert Gontran-Djono-Ahaba, pressenti premier ministre après l'accord de Khartoum. Souleymane Daouda, le porte-parole de l'UPC, un groupe armé très actif dans le centre et le sud-est du pays, est nommé ministre de l'élevage et de la santé animale. Des départements comme les travaux publics, les transports, le tourisme sont aussi tenus par des représentants des groupes armés. Première réaction, c'est le Front démocratique du peuple centrafricain, FDPC, qui monte au créneau. Ce mouvement armé, actif dans l'Ouest et dans une partie du Nord-Ouest, a exprimé son mécontentement dimanche en interdisant la circulation sur une partie du corridor Boire-Beloko. Mécontentement parce que son chef, Martin Koumtamadi, alias Abdoulaye Miskine, en exil à Brazzaville au Congo, ne fait pas partie du nouveau gouvernement. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Le Tchad a annoncé dimanche la fermeture de sa frontière avec la Libye, un mois après l'intrusion d'une colonne rebelle venue du sud libyen. C'est ce qu'annonce le ministre de la Sécurité, Mahamat Abba Ali Salah. En visite à Kouribougoudi, dans le nord-ouest du Tchad, au Tibessi, théâtre d'affrontement entre les orpailleurs et l'armée ces derniers mois, le ministre a indiqué que cette zone est devenue un carrefour de tous les malfrats, des terroristes et des rebelles. Kouribougoudi est une vaste zone aurifère qui attire de nombreux Tchadiens et étrangers. République démocratique du Congo maintenant, à Goma, la population du quartier Ndosho est descendue dans la rue pour exprimer sa colère contre l'insécurité après la nouvelle tuerie qui, dans la nuit de samedi à dimanche, a coûté la vie à 6 personnes, dont un militaire des forces armées nationales. C'est la troisième attaque en moins de mois. La police appelle à l'apaisement et à la collaboration. Charles Kasereka, notre correspondant à Goma, fait le point.
C'est vers 19h local que les assaillants ont commencé à tirer sur des passants. Ils ont commencé dans une officine pharmaceutique où ils ont tué les pharmaciens et les clients qui se trouvaient dans cette petite pharmacie du quartier. Les habitants du quartier Ndosho, pris par la colère, ont manifesté ce dimanche pour protester contre l'assassinat et le vol de plusieurs biens de valeur. Des barricades ont été érigées sur la voie publique. Des jeunes gens ont également brûlé des pneus sur la chaussée, tous accusant les autorités tant politiques que militaires des passivités face à l'insécurité dans leur quartier. Sur des cartons portés par ces jeunes, on pouvait lire par exemple des messages tels que « Non à l'insécurité, nous sommes tous des Congolais » ou encore « Trop c'est trop, nous voulons la sécurité ». Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les assaillants seraient venus du parc national de Virunga. Au mois de février, 14 autres personnes avaient été abattues par des hommes armés, presque dans des conditions similaires dans ces quartiers voisins du parc de Virunga, qui a été souvent le refuge de plusieurs groupes armés. armées, dont la rébellion rwandaise des FDLR qui est souvent pointée du doigt. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Cameroun, les associations féminines se mobilisent pour dénoncer les viols et abus sexuels dont sont victimes les filles et les femmes. Des témoignages sont enregistrés sur les cas recensés au quotidien, dans les familles, les quartiers, les établissements scolaires et les milieux professionnels. Selon des statistiques gouvernementales, 500 000 de Camerounaises sont concernées par ces crimes. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Le bourreau souvent même peut être frère aîné.
La parole se libère et les témoignages s'enchaînent.
Dans le pire des cas, c'est le père, alors vous êtes très mal parti pour résoudre ce problème.
Une quinzaine de femmes prennent part à un atelier d'échange sur les victimes de violences sexuelles dans le deuxième arrondissement de Yaoundé. Le phénomène concerne ici de nombreuses jeunes filles et femmes. Jeanne Toulon est membre de l'association Femmes Autonomes de la Briqueterie, un quartier populaire de la capitale.
Nous avons une jeune fille qui a été violée par son oncle paternel. Elle est même tombée enceinte. Elle a eu un bébé de lui. Sa famille estimait que c'était un linge sale qui devait se laver au sein de la famille. Ça fait qu'ils ont eu à déplacer la fille pour qu'on n'ait plus de traces.
Les jeunes filles scolarisées sont aussi comptées parmi les victimes de viols et abus sexuels. Mais elles optent très souvent pour le silence, témoigne Fadima Tounana, conseillère d'orientation principale au lycée technique de Yaoundé.
Quand un cas arrive comme ça, nous faisons en sorte que l'enfant se sente en sécurité. Nous donnons à l'enfant des astuces pour pouvoir survivre au traumatisme. Et dans les cas pareils, le problème ne résulte pas que de l'enfant, il faut que ça soit stoppé au niveau de la famille.
Il ressort d'une récente étude de santé publique que sur une population de 37 719 filles et femmes camerounaises, 5,2% ont été victimes de viol et près d'un quart avaient moins de 10 ans au moment du viol. Clarisse Othélé, assistante sociale pour l'association de lutte contre les violences faites aux femmes.
C'est le voisin qui abuse, c'est le père qui abuse, c'est le camarade de classe qui abuse, c'est l'inconnu aussi qui abuse les enfants. Donc on reçoit tous ces cas-là tout au long de l'année.
Co-fondatrice de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, Élise Pierrette Poumenou pense que la question de violence sexuelle sur la jeune féminine au Cameroun tarde à être considérée par les pouvoirs publics en dépit de quelques avancées.
Aujourd'hui, de plus en plus de familles portent plainte parce que leur fille est victime d'un viol. Les jugements sont rendus et nous pensons qu'il y a une évolution. Mais on n'a pas eu de loi spécifique contre les violences faites aux femmes. On a travaillé dans le code de la famille. On n'a toujours pas vu ce code validé.
Signe que la ligne rouge, trois Camerounaises ont brisé le silence sur les viols et abus sexuels dont elles ont été victimes dans un film documentaire projeté le 2 mars dernier à Douala. La productrice Laetitia Tonia-Louis, une jeune Camerounaise, a elle-même été victime d'abus sexuels. Yaoundé, Emmanuel Julita, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Libéria, trois dirigeants de la Banque centrale placés en garde à vue après la publication d'un audit indépendant doivent comparaître ce lundi pour la première fois devant un juge de Monrovia, la capitale. Les détails avec Idriss Fall.
Charles Sirleaf, fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale jusqu'à sa démission en août dernier. Dorbor Agba, un autre ancien dirigeant, a été interpellé. Milton Weeks, ancien gouverneur de la Banque centrale, s'est lui aussi rendu à la police peu après publication du rapport d'un cabinet conseil américain Kroll Associates. Dans un document de 68 pages, l'audit souligne des problèmes à tous les niveaux du processus de contrôle des billets entrant et sortant de la Banque centrale pendant les deux dernières années de la présidence de Mme Sirleaf. La Banque centrale a commandé en 2016 et 2017 de nouveaux billets pour 15 milliards de dollars libériens à la société américaine Crane Currency qui les a imprimés en Suède. Si 15 milliards ont été bien commandés, ce sont finalement 15,506 milliards qui ont été imprimés, livrés et payés. Enfin, le rapport souligne que le relevé des entrées et sorties des coffres de la Banque centrale se faisait sur des formulaires écrits à la main.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.